Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Académie et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Vous le savez, chaque année en France, une journée du patrimoine permet à tout un chacun de visiter des bâtiments publics qui, en temps normal, restent inaccessibles à nous comme un des mortels. Un des lieux les plus prisés reste sans nul doute le palais de l'Élysée, ce bâtiment du XVIIIe siècle construit sous le règne de Louis XV, incarnation aujourd'hui du pouvoir présidentiel largement rehaussé par la constitution de la Ve République. Je vous propose au cours de ce numéro d'Un jour dans l'histoire, non pas de retracer l'histoire de l'Élysée, mais de nous arrêter sur une époque particulière, toutes ces années entre l'armistice de 1940 et la présidence de Vincent Auriol qui inaugure la 4e République. Nous appellerons ces années les années noires. Resté vide pendant l'occupation, le palais de l'Élysée s'inscrit, malgré tout, dans une toile de jeu de pouvoir. C'est ce que nous allons voir avec François Dorcival. François Dorcival, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois, j'espère qu'il y en aura d'autres, que je vous reçois au micro d'Un jour dans l'histoire. Alors, vous êtes un habitué de Canal Académie, puisque vous êtes écrivain, journaliste, vous êtes éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine, et vous présentez vos chroniques, d'ailleurs, à ce micro, donc les chroniques du Figaro Magazine. Vous avez également une autre chronique, Affaires internationales, avec Thierry de Montbrial. Vous êtes donc écrivain, membre de l'Institut. Vous avez été élu, nous aurons sûrement l'occasion d'évoquer sa mémoire, sur le siège d'Henri Amouroux, donc grand spécialiste de l'époque de l'occupation. Et vous venez de publier aux éditions Robert Laffont, L'Élysée fantôme, les années noires. Ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à l'Élysée, puisque vous avez publié une monographie consacrée à l'Élysée dans la fameuse collection des éditions du Rocher, le roman ici de l'Élysée, paru en 2007. Alors avant d'en venir au cœur du sujet, peut-être une question un peu personnelle. Vous êtes journaliste, vous connaissez les arcanes du pouvoir. Quelle fut la première fois où vous avez franchi le perron de l'Élysée et quelles ont été vos impressions ?
Je pense que c'était il y a au moins une trentaine d'années, même plus que cela, puisque j'allais voir l'un des conseillers de Valéry Giscard d'Estaing. Ce qui frappe quand on entre dans l'Élysée, c'est qu'on y entre en sachant que l'on entre à l'Élysée. Ça veut dire que l'on entre dans un endroit particulier, un lieu particulier, le siège du pouvoir. Et que lorsque l'on entre à l'Élysée, dans la cour d'honneur, on est tout de suite impressionné par le silence, bien qu'il soit en plein Paris, par le silence, le fait que vous êtes accueilli par des huissiers et des gardes républicains qui, d'une certaine façon, expriment la souveraineté, les pompes du pouvoir. Donc, il y a une impression forte du pouvoir qui se fait naturellement en vous lorsque vous arrivez dans ce palais. Et puis ensuite, c'est le travail. Mais vous allez dans un ministère, quel qu'il soit, vous avez des collaborateurs du ministre qui courent dans les couloirs, qui vont d'un endroit en l'autre, etc. À l'Élysée, tout est feutré. Tout est feutré. Il y a pourtant beaucoup de collaborateurs. Eh bien, vous montez au premier étage pour aller chez le président de la République, vous êtes arrêté par des gardes, vous êtes installé dans des fauteuils, on attend, etc. Et il n'y a jamais aucun bruit, vous n'entendez jamais une secrétaire élever la voix ou un collaborateur faire du bruit dans les couloirs, jamais.
Vous avez interviewé plusieurs fois des présidents de la République ?
Alors, en tant que président de la République, c'est-à-dire quand ils étaient au pouvoir, ce n'a été le cas que pour Jacques Chirac et ensuite pour des rencontres Nicolas Sarkozy, mais je dirais en privé, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand naturellement.
Comment, se passe ce type d'entretien ? On doit être impressionné par la charge, c'est le premier personnage de l'État.
On y est préparé, donc lui aussi d'ailleurs, parce qu'il sait de quoi on va parler. C'est impressionnant, mais une fois le premier pas fait, eh bien, on entre dans le vif du sujet et la conversation se déroule normalement.
Alors c'est une excellente transition avec votre ouvrage, parce qu'au fond, vous commencez votre livre par l'évocation du président Lebrun, qui était donc à l'époque le président de la République. Or,
Tout le monde sait que le président de la République sous la Troisième République n'est pas le président de la République sous la Cinquième République.
Très loin, en effet. Il en est très très loin. Et d'ailleurs, c'est le président Lebrun qui va d'une certaine façon, très indirectement, mais provoquer de la part du général de Gaulle la volonté d'installer la tête de l'État, un président de la République qui est vraiment le pouvoir. Et donc, le souvenir que le général gardait de cette période-là et de cette période de juin 1940 a beaucoup joué dans la définition du pouvoir de la Ve République, puisque le général n'avait pas été entendu, comme vous le savez, lors des différents référendums qui avaient eu lieu en 1946 pour l'installation de la Quatrième République, qui s'est inscrite en gros dans la filiation de la Troisième. Donc Lebrun. Lebrun est élu en 1932. Ça n'est pas un personnage secondaire. Il est le président de l'une des deux assemblées. Il est le président du Sénat lorsqu'il est élu président de la République. À l'époque, le président de la République est élu par les sénateurs et les députés à Versailles, réunis donc en congrès, et ensuite il est conduit avec tous les honneurs à l'Élysée. Lebrun a été un officier d'artillerie tout à fait capable et courageux pendant la guerre de 1914-1918. Il est lorrain, comme Poincaré, si l'on peut dire. Il est polytechnicien, c'est un type assez brillant, mais en même temps, il va voir passer tous les événements des années 30 sans réagir vraiment. Sans réagir vraiment.
Comme beaucoup.
Je ne sais plus le nombre de cabinets, puisqu'à l'époque on appelle ça des cabinets, aujourd'hui on dit le gouvernement, à l'époque on appelle ça des cabinets ou des ministères. Je ne les ai pas comptés, tous ceux qu'il a vus passer entre 1932 et 1939. Mais ceci était extrêmement nombreux. Il a vu élire le Front populaire, l'Assemblée du Front populaire, en 1936. Et donc, ce sont ces députés-là, ainsi que les sénateurs, qui vont le réélire donc, au mois d'avril 1939, le réélire pour un deuxième mandat. Donc, lorsqu'arrive la crise dont nous allons avoir à parler, eh bien, il est dans son deuxième mandat. Deuxième mandat qui va se résoudre, hélas, très très vite.
Vous dites d'ailleurs, je crois que c'est à la fin de votre ouvrage, quand il intervient lors du procès Pétain,
oui,
Lebrun,
et
il raconte comment se passe la première entrevue avec le maréchal, et le maréchal sort tout de suite un billet de sa poche, et lui qui était en phase d'hésitant, de politique, d'attente, etc., là il se retrouve avec un homme décidé qui sort tout de suite de sa poche un billet avec le nom des futurs ministres.
Exactement, et c'est très intéressant, je suis heureux que vous ayez noté ce détail, parce que il explique beaucoup de choses, ce détail, en effet. Il explique, Albert Lebrun, au procès du maréchal Pétain, que le 16 juin à Bordeaux, au moment où il fallait savoir si l'on allait à la signature de l'armistice avec les Allemands, qui consistait d'une certaine façon à capituler politiquement et militairement, il explique qu'il y avait un désarroi total à Bordeaux. Il ne savait plus très bien comment convoquer les ministres, dans quels hôtels ils se trouvaient, ou bâtiments publics de la préfecture et ailleurs. Et donc, ils se trouvent vraiment dans la difficulté. Et là où, pendant les années précédentes, il y avait toujours 2 jours, 3 jours de consultations, de négociations avec les uns et les autres pour la formation du gouvernement, là, le maréchal Pétain, qui est vice-président auprès de Paul Reynaud du gouvernement, Paul Reynaud démissionnant, le maréchal Pétain est là tout de suite, tout prêt, et il a sa liste de ministres sous la main, immédiatement préparée, et donc pour Lebrun, c'est évidemment une très grande commodité, et il lui confie le pouvoir. Nous sommes le 16 juin à Bordeaux, c'est-à-dire que nous sommes 36 jours seulement après le début de l'attaque allemande.
Alors, venons-en au bâtiment. Des précautions avaient été prises. Vous expliquez qu'on avait non pas fait, l'arme atomique n'existait pas encore, mais il y avait des abris anti-bombardement. Et donc, la marque de la guerre s'inscrit, ou en tous les cas, la menace de guerre s'inscrivait dans le lieu, dans le bâtiment de l'Élysée.
Eh oui, c'est d'ailleurs cet abri que Valéry Giscard d'Estaing appellera l'abri de la peur, car il n'était que ça. Et Giscard le transformera, vous avez prononcé le mot nucléaire, en PC Jupiter, c'est-à-dire le poste de commandement du commandement des forces nucléaires. Mais à l'époque, c'est donc un abri contre les bombardements que Albert Lebrun fait construire dans la cour est, sous la cour est de l'Élysée, entre chantier qui se tient entre 1936 et 1939 et qui est destiné à pouvoir abriter une centaine de personnels de l'Élysée, y compris le président de la République, naturellement, ses principaux collaborateurs, avec toutes les installations téléphoniques nécessaires, mais pas seulement, avec également chambre d'urgence, chambre médicalisée, nécessaire de santé, etc. Et donc, cet abri, on y a fait des exercices, mais il n'a jamais servi, puisque les avions de bombardement ne sont pas venus sur Paris pour bombarder l'Élysée. À côté de cela, l'Élysée, en 1940, lorsque se situe le début de notre histoire, eh bien, il a été entièrement déménagé. Ça veut dire qu'il ne figure plus dans le palais ni les tapisseries, ni les objets d'art, ni le mobilier d'art 18e et Napoléon III qui y figuraient jusque-là. On a borné le subsistant en quelques pièces de mobilier indispensables au fonctionnement, en quelque sorte, résiduel de l'État du début du mois de juin.
Alors, c'est ce qui est frappant dans votre ouvrage, c'est qu'il y a une débâcle politique, il y a une débâcle militaire. Et d'un autre côté, il y a une forme d'administration qui gère le mobilier de manière, je ne vais pas dire pendulaire, mais absolument régulière. Et à la fin de votre ouvrage, quand on restitue toute sa légitimité, toute sa place à l'Élysée, eh bien, on récupère absolument tout le mobilier qui a été consigné. Il y a une précision et il y a ces deux mondes qui sont complètement opposés.
Absolument, absolument. Donc en 1940, on évacue tout. Et à partir de 1944, on reconstitue tout. Tout avait été évacué vers Aubusson, comme le Louvre avait été évacué. Et donc, il est évidemment passionnant, c'est ce que m'ont permis les archives du mobilier national, de suivre ce qui arrivait à ce mobilier. Car, encore une fois, le palais ne peut fonctionner qu'avec ce mobilier. Ses meubles pour les bureaux, ses tables, ses chaises, ses fauteuils, pour les salons, les chambres, etc. Et donc, dès lors que vous savez ce qui arrive aux meubles, vous savez ce qui arrive aux hommes. Et vous reconstituez ainsi une histoire qui n'avait pas été racontée.
C'est peut-être une question piège. Est-ce que vous pourriez me dire combien il y a de pièces à l'Élysée ? Vous mettez un plan en début de votre ouvrage,
oui, bien sûr.
C'est absolument impressionnant.
Tout
il y a combien d'étages ?
Il y a, dans le bâtiment central, il y a trois étages.
Oui.
Trois étages. Un premier étage qui était... Mais à l'époque, aujourd'hui, le rez-de-chaussée est celui des salons, à l'époque aussi. Le premier étage, aujourd'hui, est celui des bureaux du président notamment, au deuxième étage de bureaux aussi, et l'appartement du roi de Rome. Mais à l'époque, le bâtiment central qui est aujourd'hui celui du président de la République et de ses principaux collaborateurs n'est qu'un bâtiment de réception. Que cela, avec les appartements de l'empereur et de l'impératrice, ou du roi et de la reine, etc. En revanche, le président de la République, lui, il est dans l'aile privée, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'aile privée, c'est-à-dire l'aile est du palais, dans lequel, au rez-de-chaussée, il a ses collaborateurs et son bureau, et au premier étage, ses appartements privés. Donc, c'est là que se situe, et cela explique aussi la dimension du pouvoir. À l'époque de Albert Lebrun, l'Élysée, c'est en gros 220 collaborateurs, y compris la garde républicaine qui assure la sécurité du bâtiment. Aujourd'hui, vous en avez 930. 930. Donc, vous voyez la vraie dimension du pouvoir au nombre simplement de collaborateurs qui travaillent pour le président de la République. Dites-vous qu'aujourd'hui, le secrétariat du président de la République, ceux qui répondent aux courriers, etc., c'est plus de 150 personnes. La garde républicaine, c'est 380 personnes.
François d'Orcival, nous nous retrouvons dans un instant.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois François d'Orcival, membre de l'Institut, qui vient de publier donc chez Robert Laffont
l'Élysée fantôme, les années noires. Alors revenons-en, François Dorcival, à la politique. Alors certes, l'Élysée n'a pas la dimension du pouvoir tel qu'il l'est aujourd'hui, mais malgré tout, on s'inquiète parce que après le départ de Lebrun, il part dans la vallée du Cher à Cangé, eh bien, un bruit court comme quoi Thorez, donc le chef du Parti communiste français, va s'emparer de l'Élysée.
Oui, et c'est une anecdote en effet significative, parce que cela signifie tout simplement qu'à partir du moment où le pouvoir évacue Paris, qui a été déclaré ville ouverte, et que les Allemands vont arriver, au fond, la grande crainte de Weygand, du maréchal Pétain, de Laval et des autres, c'est de voir exploser l'armée française. Et si l'armée française explose, Weygand a expliqué déjà plusieurs fois qu'à ce moment-là, il fallait tout craindre. Or, l'obsession en 1940, c'est de voir les communistes réussir une insurrection. Pourquoi cette obsession ? Mais parce que, tout simplement, le Parti communiste a été mis hors la loi, 9 mois plus tôt, hors la loi. 44 députés communistes ont été condamnés, mis en prison. Maurice Thorez a été condamné pour désertion, parce que, à un moment donné, étant donné que le parti était hors la loi, on est venu le chercher pour l'exfiltrer, en quelque sorte. Donc, il y a une obsession de l'insurrection et du fait que Thorez risque bien de prendre le pouvoir. Dans le chaos général qui se déroule à ce moment-là, et donc la perte de contrôle, si on peut expliquer que Thorez et le Parti communiste sont en train de prendre le pouvoir à Paris et Thorez de s'installer à l'Élysée, c'est que l'armistice devient non pas simplement une nécessité, mais une urgente nécessité. Et donc, quand cette affaire vient en Conseil des ministres, il est clair que c'est bien à ce moment-là que Weygand veut obtenir la décision de conclure l'armistice. Nous sommes le jeudi 13 juin 1940. Le jeudi 13 juin 1940, l'armistice, il sera du 23, donc 10 jours plus tard. Mais c'est l'histoire qui s'accélère. Et or, cette histoire de Thorez et de l'insurrection communiste n'existe pas. Thorez est à ce moment-là à Moscou et le Parti communiste est totalement incapable de faire une insurrection à Paris. Mais tout le monde est persuadé dans sa tête, enfin un certain nombre d'acteurs, qu'il peut le faire. Et on franchit l'étape de « il peut le faire » à « il est en train de le faire ».
Alors vous remontez le filon, et en quelque sorte, de l'information.
Bien sûr, au fait que avec le pacte germano-soviétique, tout change. Et que, évidemment, cela conduit la France, donc Daladier à l'époque, et non pas Paul Reynaud, à dissoudre le Parti communiste en septembre 1939.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le nombre d'employés à l'Élysée aujourd'hui. Il y en a 900, il y en avait à l'époque 300. Or, le palais est vide et il reste une dizaine de personnes. Et il y a ce personnage qui est étonnant, on va dire, qui est tout simplement le concierge Anoto. Anoto, qui est le cousin
de Guillaume Anoto, membre de l'Académie française.
Voilà, exactement. Et ce personnage, je parlais de l'administration qui marche au fond avec une précision d'horloger, eh bien, ce personnage passe absolument tous les régimes et on le voit ouvrir en 1944 les portes de l'Élysée.
Absolument. Et c'est lui, c'est grâce à lui, à ce Jean-Baptiste Anoto, qui, interrogé par un journaliste de France Soir, lui a raconté ses souvenirs en novembre et décembre 1949, c'était une série d'une dizaine d'articles tout de même, c'est grâce à ces articles et donc aux souvenirs du concierge que j'ai pu, en quelque sorte, reconstituer le fil de l'histoire. Parce que, en effet, il avait été recruté par Poincaré en 1918. Il a donc vu toutes les présidences qui se sont succédées depuis l'avant-guerre et il a assisté au départ de Lebrun. Et il est resté sur place. Il est resté sur place avec l'électricien, les 2 ou 3 jardiniers, avec 2 ou 3 lingères, etc. Le personnel, je dirais, de subsistance nécessaire pour entretenir au minimum l'Élysée pendant toutes ces années de l'occupation. Donc, il me donne des informations qu'ensuite je suis allé vérifier, compléter. Et c'est ce qui m'a permis de construire ce récit documenté en allant, en effet, dans les archives où j'ai retrouvé, là, le développement de ce que le concierge me racontait. Et en avril 1942, le concierge voit arriver Darlan. Et j'ai retrouvé, en effet, des lettres du secrétariat de l'amiral Darlan commandant les forces françaises, perdant le pouvoir en avril 1942 et d'une certaine façon prenant sa revanche vis-à-vis de Laval et du maréchal Pétain en s'installant où ? En s'installant à l'Élysée. Et donc, en avril 1942, déjà, on commence à remeubler et à réinstaller quelques salons.
Restons à l'arrivée des troupes allemandes. Que va devenir l'Élysée ? Est-ce que c'est un point politique stratégique pour Hitler et pour son armée ? Est-ce qu'il est important de prendre l'Élysée ?
Alors, là, nous avons en effet deux temps. Un premier temps où l'armée allemande entre dans Paris et finalement prend tout. Elle occupe tout, un peu partout, et elle met le drapeau à croix gammée, non seulement sur l'hôtel Crillon de la Concorde, sur l'ensemble des hôtels dont les commandements allemands vont s'emparer, mais également sur l'Élysée. La croix gammée a flotté sur l'Élysée. Et puis, ensuite, ils vont se retirer. Quels sont les bâtiments que les Allemands occupent réellement à Paris comme bâtiments publics ? Ils occupent le palais du Luxembourg et le palais Bourbon. Ils n'occupent pas l'hôtel Matignon, n'occuperont pas l'Élysée, ni la plupart des ministères. En revanche, ils s'installent sur tous les hôtels de la rue de Rivoli, le Majestic avenue Kléber, etc., etc.
Donc cela signifie qu'ils laissent à l'administration française la possibilité de les utiliser ?
Exactement. Et en effet, dans les clauses de l'armistice, il y a à l'époque un article qui permet l'éventualité du retour à Paris du gouvernement. Donc, ce gouvernement qui est parti pour Tours, puis pour Bordeaux, puis pour Vichy, dès qu'il est arrivé à Vichy, le gouvernement estime que ceci est une étape provisoire. Et le maréchal Pétain, à peine est-il installé à Vichy, au pavillon Sévillé, que l'on appelle le Petit Élysée, n'a de cesse de dire « Mes valises sont prêtes, je repars pour Paris ». Sauf que cela dépend de ce que les Allemands veulent ou ne veulent pas faire. Or, effectivement, ils vont tenir la carotte du retour sur Paris comme un argument permanent de négociation avec le gouvernement du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain va négocier, Pierre Laval et Darlan vont négocier avec les Allemands dans l'idée, à un moment donné, de pouvoir revenir à Paris. Et si on revient à Paris, le président du Conseil sera à Matignon et le président de la République, enfin, ou le chef de l'État, à l'Élysée. Et c'est ça le nœud de l'histoire.
Alors, je fais un parallèle, hein, vraiment, en tous les cas, je fais un parallèle avec l'histoire du bâtiment lui-même. Il est, au fond, tout ce qui peut se passer, on sait qu'il y a ces 10 personnes, mais visiblement, à côté donc, de ces enjeux politiques, l'Élysée fait l'objet de travaux. À un moment, il est même utilisé pour des prisonniers, qui restent peu de temps, d'ailleurs.
Oui. Alors, effectivement, lorsque l'armée allemande arrive à Paris, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant, elle occupe ces bâtiments, elle occupe l'Élysée, le drapeau à croix gammée flotte sur l'Élysée, et elle enferme là, pendant quelques jours, 800 prisonniers. 800 prisonniers. Les cours de l'Élysée sont transformées en camps de prisonniers. Et puis, naturellement, au bout de quelques jours, eh bien, elle va les évacuer. Elle va les évacuer et n'y reviendra plus. Autrement dit, l'armée allemande a occupé l'Élysée entre le 14 et le 28 juin. Entre-temps, le 23, le dimanche 23, Hitler est venu visiter Paris, dans le plus grand secret, entre 6h et 9h du matin. Il voulait voir Paris, il est venu voir Paris, il a commencé par l'opéra, il s'est posé au Bourget, il a traversé Paris, il a commencé par l'opéra, et ensuite il a fait tout un circuit dans Paris. Il ne s'est pas arrêté à l'Élysée parce qu'il considérait que le président de la République et le lieu de son pouvoir n'étaient pas son principal souci.
Alors, et je reviens, excusez-moi, sur ce que vous disiez précédemment, l'Élysée est cet objet, en tous les cas, est-ce qu'on peut dire une carotte au fond ? Est-ce que c'est une carotte de la collaboration ? C'est-à-dire qu'en gros, vous collaborez et vous aurez peut-être la possibilité de...
C'est un enjeu. Incontestablement, c'est un enjeu. Incontestablement. Puisque jusqu'au bout, on se posera la question de savoir si et si les Allemands nous permettaient de, du côté du cabinet du maréchal Pétain, comme de Pierre Laval. L'idée générale, et de Darlan à un moment donné, l'idée générale, c'est si on peut revenir à l'Élysée, c'est qu'on incarne quand même une certaine légitimité du pouvoir, par rapport notamment au général de Gaulle, qui est en train de constituer, à partir d'Alger, son gouvernement provisoire.
Alors, il y a une autre constitution qui est en cours, c'est celle que prépare le maréchal Pétain. Vous présentez très bien cet épisode, où on transmet d'ailleurs aux Américains, qui reconnaissent toujours comme le pouvoir légal et légitime le maréchal Pétain, on transmet la constitution dans un pain de mie.
Absolument.
Dans un pain de mie. Et l'officier qui s'occupe de cela, c'est, je ne sais pas si je prononce correctement, mais Gorostarzou. Et Gorostarzou, donc, est mandaté par le maréchal Pétain. Et c'est à ce moment-là que, au fond, on est au cœur d'une volonté de retourner, de prendre place à l'Élysée.
Mais oui, c'est en effet le début de l'histoire. Enfin, je veux dire, le début d'un nouveau développement de l'histoire, d'un nouvel épisode. Car nous sommes à ce moment-là en 1943. En 1943, c'est la chute de Stalingrad, c'est le début des revers Stalingrad-Koursk, des revers de l'armée allemande, le fait qu'elle est en train de se replier du front de l'Est, et par conséquent, le gouvernement de Vichy n'est pas plus nul en matière de compréhension de ce qui se passe à l'étranger que les autres. Il voit bien que si ce n'est la fin, tout au moins, le destin de l'armée hitlérienne est en train de basculer. Et donc, l'idée générale, c'est en effet de convaincre les Américains, à commencer par Roosevelt, de ce que Pétain est capable d'installer une institution, un régime républicain démocratique. Et donc, pour en convaincre Roosevelt, encore faut-il rédiger une constitution et la lui faire parvenir. Et c'est cette mission que Pétain va confier au colonel de Gorostarzou, son ancien officier de renseignement en Espagne. Il va la lui confier en lui demandant de rejoindre le Portugal où il y a le fameux colonel Donovan, où se retrouve également le colonel Soborg, c'est-à-dire tous ces milieux du renseignement américain qui sont au contact, dans une région un peu neutre, si l'on peut dire, de tous les services de renseignement européens, etc. Et donc, c'est là que Gorostarzou va transporter les feuillets de la Constitution fabriqué par les services du maréchal Pétain, dans une mie de pain pour la protéger de tout contrôle extérieur. Mais une fois qu'il a lu et vu cette constitution, eh bien Roosevelt estime que pour autant, il ne garantit pas du tout la légitimité du pouvoir du maréchal Pétain. Au contraire, il lui conseille de quitter Vichy, de se réfugier dans un des châteaux de la Loire, au fond de revenir en Touraine, et d'y attendre la suite des événements. Et Pétain refuse. Donc, ça bloque le début de conversation avec les Américains. Ça s'arrêtera là. Alors, ensuite, eh bien, Pétain va jouer sur d'autres agents, en quelque sorte, et notamment, agents entre guillemets, l'un qui est un jeune type très héros de feuilleton, en la personne de Gabriel Janté, qui est à l'époque éditeur à Vichy, mais qui est en fait aussi un ancien de la cagoule, etc., mais qui a des copains dans la résistance. Donc il lui confie à lui le fait d'essayer de prendre contact avec la résistance pour voir si, quittant Vichy, Pétain pourrait rejoindre Paris, de la même façon qu'il confie à l'amiral Auffan, de son entourage, la mission de prendre contact, lui, avec le général de Gaulle, s'il y parvient. Et on sait que la mission de l'un comme celle de l'autre, n'aboutiront pas.
Est-ce que les choses étaient possibles ? Parce qu'au fond, vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, en 1942, il y a le fameux épisode où se présente un choix au maréchal Pétain qui est d'aller tout simplement en Afrique du Nord, et il ne le fait pas, et vous l'expliquez, j'allais dire, très sobrement, en disant qu'il n'aimait pas l'avion. Et
c'est même le général de Gaulle qui a expliqué ça. Eh oui. Et c'est probablement une des explications, je ne dis pas la seule, parce que l'explication répétée, récurrente, etc., c'est « je ne quitte pas le sol français où se trouvent les Français ». Mais en même temps, c'est vrai que Pétain détestait l'avion.
Mais après 1942, est-ce que ça démarche de 1943? Parce qu'on sent tout de même un personnage sincère en 1943 qui prend plus que la peine d'écrire une constitution, qui se fait entourer pour cette constitution. La constitution, elle ne fait pas une page ou deux pages, elle en fait plusieurs.
Oui, oui,
donc il y a une sincérité. C'est-à-dire, est-ce qu'il est récupérable, en quelque sorte, en 1943?
C'est très difficile de le dire parce que en 1944, et donc les choses se sont aggravées entre-temps, il va venir à Paris après les bombardements américain du mois d'avril, il va venir à Paris pour une visite, et donc il se dit « enfin Paris, enfin Paris ». Il va venir à Paris pour une visite qui se termine à Notre-Dame, comme vous le savez, et à l'hôtel de ville. Et à la suite de cette visite, rentre à Vichy pour prononcer un discours épouvantable. Épouvantable parce qu'en gros, il dit aux Français « des événements risquent de se produire, je vous demande de ne participer en rien et de vous opposer à tout acte de résistance », ce qui forcément rend les relations entre lui et la résistance impossibles. Et donc, tout ce qui sera fait après sera entaché du discours qu'il aura prononcé à la fin du mois d'avril.
Je reçois François Dorcival, membre de l'Institut et auteur du livre « L'Élysée fantôme, les années noires », un livre paru aux éditions Robert Laffont. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie vous propose une rétrospective sur les sept vies de Prosper Mérimée en compagnie du biographe Pierre Pélissier. Le nom de Mérimée reste attaché aux monuments historiques dont il fut le deuxième inspecteur général nommé par Thiers. Il fut également membre de deux académies, les inscriptions et belles-lettres et la française, mais en vérité, il mena plusieurs vies. Pour en savoir plus, téléchargez dès maintenant cette émission dans la rubrique « En habit vert ».
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'Élysée, cette période qui va de 1940 à 1946, l'Élysée fantôme, tel est le titre de l'ouvrage de François Dorcival paru aux éditions Robert Laffont. Alors, François Dorcival, nous arrivons à la Libération et quand on sait, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, ce qui va se passer avec le général de Gaulle en 58, etc., quand on sait la fin de l'histoire, on est étonné de voir le général de Gaulle arriver à Paris. Alors, vous décrivez tout ce mouvement, Leclerc, etc. Et il ne s'agit pas d'aller à l'Élysée, il s'agit d'aller au ministère de la Guerre.
Absolument.
Donc, on le retrouve rue Saint-Dominique.
Rue Saint-Dominique, tout à fait. C'est-à-dire qu'on le retrouve rue Saint-Dominique, non seulement rue Saint-Dominique, mais à ce moment-là, de Gaulle n'est plus le secrétaire d'État à la guerre qu'il était en 1940. Qu'il aura été quelques jours, du 6 juin au 16 juin, la veille de son départ pour Londres. Bien, il n'est plus le secrétaire d'État à la guerre, il est devenu le président du gouvernement provisoire de la République française. Donc il est en gros le chef de l'État, il est celui qui incarne la légitimité selon lui. Et d'ailleurs cette légitimité, il va la démontrer, si je puis dire, en traversant la foule qui vient l'acclamer le jour de la libération où il arrive à Paris. Donc de Gaulle, en effet, décide d'aller au ministère de la guerre et nulle part ailleurs, ministère de la guerre. Parce que, pour lui, l'Élysée, c'est le symbole de la catastrophe. C'est le symbole de la débâcle. Et puis aussi, il n'est pas le président de la République. Et il ne veut pas que l'on se trompe, je dirais, de constitution. Tant qu'il n'y aura pas de nouvelle constitution, il ne s'installera pas à l'Élysée. Mais il ne sait pas, au moment où il arrive à Paris, ce que sera la Constitution. Et son directeur de cabinet, Gaston Palevski, le sait encore moins que lui. Mais Gaston Palevski, qui, lui, prépare l'hôtel Matignon pour que l'on puisse tenir les conseils des ministres. Donc, le général travaille au ministère de la Guerre rue Saint-Dominique et il va, en même temps, donc réunir ses conseils à l'hôtel Matignon, qui se trouve, donc, comme on le sait, rue de Varennes. Eh bien, Gaston Palevski se dit, il m'a demandé de préparer l'hôtel Matignon, il m'a demandé de préparer le Palais Bourbon.
Je vais préparer l'Élysée.
Je vais préparer l'Élysée aussi, au cas où.
C'est un personnage,
c'est ce qu'il
Gaston
fait.
Palevski.
Ah oui, absolument, c'est un personnage.
L'embrassadeur.
L'embrassadeur, parce qu'il adorait les... Il était célibataire à l'époque, il adorait les jolies femmes, et donc il avait cette réputation parmi d'autres. Et donc, effectivement, il va se faire ouvrir l'Élysée et tenir un certain nombre de réunions pour commencer à mettre les chantiers en route afin que, justement, l'Élysée soit prêt au cas où. Et donc, il va préparer ce qui va se faire ensuite pour le retour du président de la République.
Ah oui, il y a l'anecdote du cuisinier, du
absolument,
maréchal.
Absolument. Merveilleuse anecdote, car le soir de l'arrivée du général de Gaulle à Paris, au ministère de la Guerre, son colonel chargé de l'intendance et donc chargé d'un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intendance, la logistique, etc., s'inquiète de savoir comment on va recevoir à dîner les 40 ou 50 collaborateurs du général qui sont là, ses chefs d'état-major, ses colonels, etc., et qu'il faut donc accueillir pour un dîner qui soit un dîner digne le soir même de la libération de Paris. Et donc, le colonel en question cherche le cuisinier capable de réaliser ce dîner. Et se présente au ministère de la Guerre quelqu'un qui est là dans les couloirs et qui se dit cuisinier. Et le colonel lui dit « Mais est-ce que vous êtes capable d'organiser un dîner pour 50 personnes ?» Eh bien, le cuisinier dit « Mais oui, je suis capable, oui, oui, oui. » Et le colonel dit « Mais d'où êtes-vous » Et le cuisinier dit, mais écoutez, je viens de l'Élysée. Comment ça de l'Élysée? Mais oui, je viens de l'Élysée parce que le maréchal Pétain m'avait envoyé à l'Élysée. Ce qui, par parenthèse, est bien la démonstration que Pétain avait bien décidé, ou en tout cas son cabinet, d'aller à l'Élysée, ce qui nous conduit à raconter un autre épisode, qui est la préparation ultime au mois d'août 1944. Entre le 4 et le 11 août 1944, les officiers du cabinet du maréchal Pétain vont à Paris, au siège du Mobilier National, avec une consigne, il faut d'urgence remeubler l'Élysée. Donc, ils remettent des lits, des bureaux, des tables, etc. Parce que le maréchal va arriver et que c'est lui qui va accueillir les Américains. Entre le 8 et le 11 août 1944. Et j'apporte naturellement toute la correspondance, les minutes, etc. Et notamment, les minutes de ces échanges du Mobilier National, des chefs d'atelier du Mobilier National, qui n'ayant pas le matériel sous la main, sont obligés d'appeler la Samaritaine, le Bon Marché, le Printemps, les Galeries Lafayette, pour obtenir des couvertures, des draps, des sommiers, des matelas, pour garnir les chambres qui puissent permettre d'accueillir non seulement le maréchal, mais ses collaborateurs.
Et vous présentez la visite de plusieurs journalistes, dont un de Libération, et c'est assez, je vais pas dire, émouvant. Mais ce personnage arrive et puis il passe rapidement dans les pièces, il voit cette poussière et au fond, on a l'impression qu'il visite une sorte de vestige du passé, alors que là encore une fois, on connaît la suite et on sait que ça va devenir le symbole de la Ve République.
Absolument. Cela dit, nous sommes encore à 14 ans, 15 ans de la Ve République. Donc il y aura le temps. Mais oui, c'est très juste. C'est très très juste. Ça veut dire que ce journaliste, au fond, c'est ça qui est très très amusant parce qu'il a assisté à la libération de Paris, il a vu se lever les barricades, les combats, entourer l'hôtel de ville, la préfecture, etc. Et il s'est posé la question, mais et à l'Élysée, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y va. Et il y va et il découvre que l'Élysée est pavoisée, ça oui, avec toutes les couleurs des armées victorieuses contre l'armée hitlérienne, c'est-à-dire l'armée française, l'armée britannique, l'armée américaine et l'armée
soviétique.
Rouge. Et l'armée rouge. Hein. Le drapeau à la faucille et au marteau et à l'étoile rouge a flotté lui aussi sur l'Élysée, comme la bannière étoilée, comme l'Union Jack à cette époque-là. Et donc, derrière ce pavoisement, eh bien, il découvre un palais de l'Élysée qui ressemble au palais de la Belle au Bois Dormant, de la Belle au Bois Dormant. Et effectivement, comme vous le dites très bien, un peu recouvert de poussière.
Mais on sent qu'au fond, ce personnage réagit comme le général de Gaulle. Dans cette visite, il se dit que ça fait partie du passé et c'est surtout le symbole d'un échec.
C'est le symbole du désastre. C'est le symbole du désastre. C'est pour ça qu'effectivement, il va falloir du temps pour redonner du lustre à ce palais de l'Élysée.
Et pourtant, paradoxalement, c'est la fin de votre ouvrage, donc c'est l'élection d'Auriol.
Ouais.
Donc, Auriol est élu, mais on retombe en quelque sorte dans les, j'allais dire, dans les tergiversations de la Troisième République et dans les difficultés gouvernementales.
C'est vrai. C'est toutes les ambiguïtés du contenu de la Constitution de la Quatrième République contre laquelle le général de Gaulle s'était élevé. Et finalement, le général de Gaulle part au mois de janvier 1946. Et s'il part au mois de janvier 1946, c'est parce qu'il se dit, bon, les partis sont revenus, ils se sont réinstallés, moi j'en ai assez d'avoir à gérer ce genre de truc. Et donc, la Constitution de 1946 est votée, Auriol est élu président de la République, et Auriol, il voudrait bien exercer un vrai pouvoir. Et il le dit, mais la Constitution va l'en empêcher. Et donc, oui, il désigne le gouvernement, mais le gouvernement est entre les mains de l'Assemblée, et une Assemblée divisée avec un mode de scrutin qui fait que cette Assemblée rassemble un très grand nombre de partis. Et donc, il est vrai que malgré la volonté qui était la sienne d'avoir un véritable pouvoir, d'exercer un véritable pouvoir, Auriol va être obligé de se plier à des institutions faibles, et donc Ramadier, qui est le premier des présidents du Conseil qu'il nomme, son gouvernement va tenir 9 mois, 9-10 mois. Et puis ensuite, il en sera ainsi jusqu'en 1954.
Il y a cette forme de paradoxe hein, qui est admirablement bien illustrée par une citation que vous reprenez de Dumaine, le désenchantement.
Alors Dumaine, c'était le chef du protocole, personnage très important auprès du président de la République, parce que c'est lui qui sait tout.
Le désenchantement aura été dans ce palais le frère puiné de la convoitise.
C'est joli.
Eh bien, merci beaucoup François Dorcival d'être venu au micro de Canal Academy donc pour évoquer ces années noires et cette Élysée fantôme. C'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.